France Bleu Sud-Lorraine. À votre service, Damien Colombo.
9h07, bienvenue sur France Bleu Lorraine. On vous accompagne jusqu'à 10h avec vos questions aujourd'hui. Vous nous appelez 03 83 36 20 20. On va parler droit de la famille avec maître Dominique Talarico qui est avec nous. Bonjour maître.
Bonjour Damien.
Merci de nous accompagner ce matin. C'est vrai qu'on est sur une période un peu particulière, c'est les vacances, il y a des choses à savoir, il y a des choses à mettre en place, surtout quand il n'y a pas de décision de justice qui a été mise en place pour les familles séparées.
Oui, c'est le plus embêtant quand il n'y a pas de décision de justice parce que ça repose sur l'accord des parents.
Ouais, et il faut que tout le monde soit d'accord, notamment pour
l'organisation des vacances.
Ouais, c'est ça, aller voir les grands-parents qui ont aussi un droit, il y a plein de choses à savoir. On va répondre à toutes ces questions ce matin sur France Bleu Lorraine. 03 83 36 20 20. Et on va commencer tout de suite justement avec cette question. Quand il n'y a pas de décision, il y a obligatoirement une décision de justice qui doit être prise avant au moment de la séparation, ou alors quand il n'y a pas de divorce, quand il n'y a pas de choses comme ça, on peut s'accorder sur des droits de garde, des droits de visite.
C'est toujours mieux d'avoir une décision de justice parce que quand il n'y en a pas, ça repose sur l'accord des parents.
Ouais.
Alors s'ils sont d'accord, ils s'organisent pour les week-ends, les vacances scolaires. Mmh. Mais quand il n'y a pas de décision de justice, ça veut dire que ni l'un ni l'autre des parents n'a de contrainte pour exercer un droit. Parce que ça repose que sur l'accord, et s'il n'y a pas d'accord, ils peuvent aller voir un médiateur familial ou un avocat qui essaiera de trouver des accords, mais le mieux c'est une décision. Sachant que quand il y a une décision de justice, les modalités sont prévues dans la décision, et c'est toujours sauf meilleur accord, ça veut dire que ce n'est pas inscrit dans le marbre, on peut aussi moduler les modalités qui sont prévues dans la décision du juge.
On a l'impression justement que quand le juge a fait un papier, après on ne peut plus s'arranger quand ça arrange l'un ou l'autre.
Non, ça c'est faux. De toute façon, dans les décisions, c'est toujours écrit sauf meilleur accord des parties, le père ou la mère a tel et tel... modalité, droit de visite et d'hébergement.
D'accord. Quand il y a des plannings établis, quand il y a des plannings changeants pour les uns et les autres, c'est difficile d'avoir une décision de justice qui dit c'est un week-end sur deux, c'est une semaine sur deux. C'est...
Alors en général, c'est vrai, c'est un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires.
Ouais.
Mais pour les professions à contrainte horaire, comme par exemple contrôleur SNCF ou d'autres professions qui ont des plannings ou infirmiers, ceux qui travaillent de nuit, qui ont des plannings à l'avance. En général, en fait, c'est prévu que le parent qui bénéficie d'un droit doit prévenir l'autre parent au moins un mois à l'avance ou deux mois à l'avance en fonction de son planning professionnel.
D'accord.
Ça, c'est possible.
Oui, c'est possible de pouvoir s'arranger comme ça et faire... les grands-parents aussi ont des droits.
Oui, alors pour les grands-parents, par contre, sans décision de justice, c'est du impossible, on va dire.
Ah ouais?
Bah oui, parce qu'en fait, c'est déjà quand il y a des contentieux avec les grands-parents, quand il y a des procédures avec les grands-parents, ça veut dire que souvent, c'est les parents qui sont déjà en conflit avec leurs propres parents pour confier leurs enfants, donc confier les petits-enfants. Donc, à part une décision de justice, sans accord, c'est impossible.
Mais quand il y a séparation du couple, pour les grands-parents, il y a des droits également
Oui, alors après, quand ils s'entendent, bien sûr, les parents peuvent directement confier leurs enfants aux grands-parents, mais quand il n'y a pas d'entente, il y a une procédure spécifique pour ça, où les grands-parents peuvent introduire une procédure pour obtenir des droits.
D'accord. Donc ça, c'est à savoir aussi. C'est toujours mieux quand ça se fait en bonne intelligence et en bonne entente. C'est toujours plus facile, mais il peut y avoir des choses à... C'est quoi? C'est pour surtout poser une décision, pour poser des droits, des devoirs de chacun?
Oui, et puis surtout pour sécuriser les choses, pour garantir les droits de chacun, parce qu'effectivement, souvent, moi, j'ai des clients qui pendant un an, deux ans, n'ont pas eu besoin de décision de justice, ils sont organisés. Et puis après, deux ans après, il n'y a plus d'organisation possible, plus d'entente, donc ils sont obligés de faire une procédure, parce que le problème, c'est que quand il n'y a pas plus d'entente, en l'absence de décision, vous n'avez aucune contrainte, vous ne pouvez pas contraindre à l'autre de recevoir votre enfant le temps d'un week-end ou de vacances.
Et quand il y a un changement de situation, on a l'impression que le jugement a été posé, c'est immuable.
Non, quand il y a un changement... Alors, les décisions qui sont prises pour les enfants, que ce soit la résidence, le droit de visite, la pension alimentaire, c'est toujours révisable dès qu'il y a un élément nouveau.
D'accord.
Donc pour le droit de visite, si ça se passe mal à un moment, on peut le réduire. Par exemple, d'un droit de visite et d'hébergement, on peut passer à un droit de visite. Si ça se passe encore plus mal, d'un droit de visite, on passe à un droit de visite en milieu neutre, c'est-à-dire dans un cadre associatif en présence d'une tierce personne. Et si ça se passe encore plus mal, dans ce cas-là, c'est la suppression du droit.
Oui, donc ça peut être révisé à chaque fois. Ça peut aller dans l'autre sens aussi.
Oui. Bien sûr, après, on peut passer d'un droit de visite et d'hébergement avec une résidence chez l'un des parents et arriver à une garde alternée, par exemple.
C'est ça. Les décisions doivent être prises au fur et à mesure, à chaque nouveau élément.
En fonction de l'évolution, voilà.
Et c'est quoi les parents séparés doivent directement s'adresser à l'avocat ou directement
alors, quand il y a une décision de justice qui prévoit, par exemple, résidence, droit de visite, pension alimentaire, quand il y a une modification, soit il passe par un avocat pour une convention parentale, parce que c'est ce qui est plus rapide, ou saisir le juge s'il y a, par exemple, encore quelques points de litige à trancher.
Et on se pose d'autant plus les questions pendant ces vacances-là. Alors, je ne sais pas si vous les posez également, mais vous pourrez nous appeler au 03 83 36 20 20 jusqu'à 10h ce matin sur France Bleu Lorraine. On parle droit de la famille avec Maître Dominique Talarico. Vous posez toutes vos questions. 03 83 36 20 20, les parents, les grands-parents, les enfants, quels sont les droits et les devoirs de chacun? Comment on peut solutionner certaines choses? À qui on doit s'adresser? On répond à toutes ces questions ce matin sur France Bleu Lorraine.
France Bleu Sud-Lorraine, jusqu'à 10h, à votre service.
Avec Maître Dominique Talarico, ce matin, on répond à toutes vos questions. On parlait justement de la garde pendant les vacances, comment alterner, comment gérer au mieux les uns les autres. Essayer de le faire en bonne entente, mais avant cela, il y a des outils qui peuvent être utilisés dans les couples, alors que ce soit les couples traditionnels qui sont encore ensemble et ceux qui sont en séparation. Ça s'appelle un violentomètre, c'est ça ?
Un violentomètre, oui.
Ah, je ne connaissais pas du tout ça.
Moi non plus. J'ai entendu ce mot-là lundi pour la première fois.
D'accord.
Parce qu'il y a un client qui m'expose sa situation avec sa femme et qui me dit on utilise le violentomètre.
Okay.
D'accord, violentomètre. Alors, évidemment, j'ai regardé. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer la violence dans le couple.
D'accord.
Ça marche sous forme de couleurs. Donc, ça commence par le vert. Vous avez tous les comportements, tous les feux sont verts, qui sont... Voilà, où il n'y a rien à dire. L'orange, où là, il faut un peu commencer à se méfier. Et puis le rouge, où là, il faut agir.
Donc, c'est en fonction de quoi toutes ces petites choses-là? C'est du comportement? Parce qu'on parle de violence dans le couple, généralement, on pense à des coups, à des brimades, à ce genre de choses. Mais ça commence bien avant, peut-être.
Bon, après, je ne vais pas parler du vert, parce que le vert, c'est tout est beau.
Ouais,
donc,
voilà.
L'orange, ça commence par les brimades, les coups de colère, le pétage de plomb, l'ignorance, les critiques.
D'accord.
Voilà. Et après, tout doux, l'orange commence à devenir. À mûrir, on va dire, et devenir rouge. Et là, ça commence à être les insultes, les menaces, taper dans les murs, donner un coup de hache dans une porte, jusqu'au cou, en fait.
Oui, on a l'impression que justement, la violence, elle commence quand c'est envers l'autre, mais des fois, juste de péter un câble.
Des fois, ça peut être une. Bien sûr, ça peut être une ambiance tout à fait malsaine. Hein. Quelqu'un qui, comme vous dites, qui pète les plombs régulièrement, qui se met en colère, qui claque les portes, qui lance des assiettes. C'est déjà une forme de violence.
Si c'est pas tourné vers l'autre, ça peut quand même déjà
C'est déjà une forme de violence. J'ai déjà eu des ordonnances de protection pour une femme qui n'a pas été frappée, parce que souvent, on pense que violence égale coup, juste parce que son mari avait cassé son téléphone à coup de marteau. Et il a été expulsé du domicile pendant 6 mois.
Ah,
et l'ordonnance de protection, elle l'a obtenue. Oui.
D'accord, donc oui, ça commence très tôt.
Alors, au passage, l'ordonnance de protection, je vous en parlerai en quelques minutes, c'est justement quand il y a une situation de violence qui met en danger une femme, enfin une famille et ses enfants. Donc, en fait, en 6 jours, là, vous avez une décision de justice, parce que il suffit, et pourtant, il suffit de déposer une plainte, d'expliquer le contexte, vous saisissez le juge d'affaires familiales, il a 6 mois pour... Enfin, 6 mois, pardon. 6 jours. 6 jours pour rendre sa décision. C'est les mesures qui sont valables 6 mois. Et en fait, c'est immédiat. Hein. C'est qu'une fois que l'ordonnance de protection, elle est prononcée, l'auteur de violence, il doit partir la journée même.
Ah oui, d'accord.
Mais là, c'était juste fracasser le téléphone. À coup de marteau.
D'accord.
Mais bon, elle a eu peur qu'à un moment, c'est sa tête qui fracasse à coup de marteau.
Oui, oui, non, mais on comprend justement l'escalade où elle peut aller. Mais justement, effectivement, ça peut faire partie de cela. Bon, c'est bon à savoir, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment... on a toutes ces affaires en tête, hein, évidemment, qui nous viennent jusqu'à à des moments dramatiques. Il y a des choses à savoir avant et dans l'escalade, au moment où on peut encore réagir.
Ouais. Oui.
Et c'est ça qu'il faut pouvoir appliquer.
Il y a un fil rouge à pas dépasser.
Exactement.
Tout simplement.
03 83 36 20 20. Venez nous retrouver ce matin, posez vos questions également. Alors vous pouvez témoigner ou tout simplement venir nous parler. On peut le faire anonymement. On n'est pas obligé de donner vos prénoms, vos noms, votre ville. Voilà, tout cela. Vous pouvez le faire anonymement et poser vos questions également à Maître Dominique Talarico, 03 83 36 20 20. Venez nous retrouver ce matin sur France Bleu Lorraine. On parle droit de la famille. Toutes vos questions jusqu'à 10h sur France Bleu Lorraine. 9h25 sur France Bleu Lorraine. On parle ensemble de vos droits de la famille avec Maître Dominique Talarico. Vous pouvez poser vos questions 03 83 36 20 20. Et justement, quand on parle de questions de séparation, il y a toujours ces petites choses à mettre en place juste avant. Alors on l'a dit dès le départ, notamment autour de la garde, il y a autour des frais, notamment on parle pension alimentaire assez souvent. Comment ça se calcule? Comment ça se fait? C'est en fonction des revenus de l'un, de l'autre, en fonction de quoi?
Alors oui, la pension alimentaire, elle est fixée en fonction de la situation respective de chacun, donc la situation financière. Il existe une grille de référence. C'est juste pour avoir une idée. Mais les juges n'en tiennent pas forcément compte parce que y a des couples, enfin des parents qui ont des situations financières assez obérées, qui ont par exemple des prêts perso, etc., des états de surendettement. Donc c'est en fonction de la situation et des besoins des enfants et de leur âge.
Les deux sont étudiés, le cas de personnes, celui qui doit donner et celui qui doit recevoir.
On regarde les deux situations, la situation du créancier, suivant qu'il vit seul ou pas, parce que le créancier qui vit seul, il n'a pas les mêmes besoins que celui qui vit en couple. Celui qui vit en couple, il va avoir les charges qui sont divisées par deux, donc c'est pas pareil que celui qui paye, par exemple, qui vit seul. Donc il regarde, lui, en fonction du salaire. En général, la pension alimentaire, elle est fixée en fonction des salaires, en tenant compte un peu du disponible une fois que toutes les charges incompressibles mensuelles sont passées. Et en fonction des besoins des enfants, leur scolarité, cantine, périscolaire, activité...
Ouais, c'est en fonction des besoins des enfants. On rappelle, c'est pour les enfants en théorie.
Oui.
C'est pour.
Oui, alors pour c'est bien de le rappeler que c'est pour les enfants parce que celui qui paye a toujours un peu du mal à payer parce qu'il a l'impression que c'est pour le parent. Mm-hmm. Non, c'est pour les enfants. Et c'est vrai que souvent, ce que je constate, c'est que quand il faut déterminer le montant et que je dis par exemple, minimum en fonction de vos revenus, 150 par enfant, 200, les gens me regardent avec des yeux écarquillés, mais je leur dis, si vous prenez la semaine entre ce qu'ils mangent le matin, le midi, le soir, vous arrivez déjà à temps, vous multipliez par 7. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste en fait.
Ouais, les vêtements, les activités.
La cantine.
Mais c'est pas parce qu'on paye une pension que pour des activités, on pense aux enfants qui font un voyage scolaire. Il peut y avoir un rajout à ce moment-là puisque c'est quelque chose d'exceptionnel.
Alors c'est pour ça que sur ça, je suis vigilante aussi et je précise aux clients qu'il faut le préciser dans la décision. Parce que la pension alimentaire, une fois qu'elle est fixée, si dans la décision, c'est pas prévu que le voyage scolaire, les frais exceptionnels de santé non remboursés ou d'autres choses, si c'est pas indiqué dans la décision de justice, vous n'avez pas l'obligation. Donc ça, c'est suivant vos accords. Et c'est pour ça que souvent, pour pas qu'il y ait des difficultés, en fait, on fixe le montant de la pension alimentaire. Donc ça, c'est les besoins courants. Et j'ajoute les frais exceptionnels de santé non remboursés, voyages scolaires, classe verte ou activités extrascolaires.
Ouais, ce qui peut être ajouté finalement en plus et ce qui fait partie de la vie finalement, c'est ça aussi. Oui. Donc c'est vrai que ce sont toujours des décisions qui posent problème. Il y a toujours un qui a l'impression qui se fait flouer, l'autre que c'est pas assez. C'est difficile à faire accepter.
La pension alimentaire, c'est toujours compliqué, c'est vrai.
Ouais. Mais il y a des bases pour ça. C'est pour ça que passer devant...
Il y a une grille de référence, c'est pour ça que je leur dis, vous gagnez tant, avec suivant la grille, normalement ça devrait être tant.
Et après, on regarde la situation.
Ouais,
c'est ça, et pouvoir adapter au mieux. Vos questions ce matin, 03 83 36 20 20. Vous venez nous retrouver, on parle à droit de la famille jusqu'à 10h sur France Bleu Lorraine avec Maître Dominique Talaricot. Alors, droit de la famille au sens très large, on a beaucoup parlé des situations de divorce et de séparation, mais il peut y avoir tout un tas d'autres questions auxquelles vous pourriez répondre.
Oui, bien sûr.
Vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. On a parlé beaucoup des séparations, des situations, il y a toujours un cas à explorer. C'est toujours bien de prendre des renseignements auprès d'un avocat, justement,
évidemment,
en tout début de situation. Mais justement pour poser les choses, les droits et devoirs de chacun, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Et puis il y a la filiation également.
Oui.
Alors, on rappelle ce que c'est exactement pour ceux qui...
La filiation, c'est le lien juridique qui lie un parent à un enfant. Donc on parle de filiation légitime quand c'est dans le cadre d'un mariage, de filiation naturelle hors mariage et adoptive, une adoption évidemment.
Alors, quels sont les droits et les devoirs en fait de la filiation? Comment ça se passe, notamment en cas de séparation? Toujours compliqué à ce moment-là.
Ouais. En cas de séparation, en fait, la filiation, elle vous entraîne l'obligation, déjà l'obligation alimentaire, comme je vous disais tout à l'heure, la responsabilité civile. Mais ce qu'on entend en fait en matière de filiation, c'est surtout les actions en reconnaissance de paternité ou contestation de paternité.
C'est dans
ce cadre-là, en fait.
Exactement. Hein. Comment ça se passe, justement?
Alors, quand c'est une reconnaissance de paternité, c'est la mère qui est enceinte, qui accouche d'un enfant, qui n'a pas de père, alors qu'il y en a un potentiel,
évidemment,
qui ne veut pas le reconnaître. Donc, elle est obligée de passer par une action en justice. Où elle va expliquer qu'elle a fréquenté cet homme de telle période à telle période, en indiquant que c'est surtout pendant la période légale de conception. Et il y a une expertise qui est ordonnée par le tribunal. Donc la personne qui reçoit l'assignation doit constituer avocat parce que l'avocat est obligatoire.
D'accord.
Il doit se rendre à l'expertise avec l'enfant et c'est là qu'on détermine la filiation. Donc si la filiation elle est déterminée à 99,99%, d'après le rapport du biologiste, le père devient malgré lui, parce qu'il y a des situations comme ça, malheureusement, malgré lui père de l'enfant, avec toutes les obligations que ça entraîne, c'est-à-dire notamment le règlement d'une pension alimentaire. Parce que bien souvent, quand on est dans des cas comme ça, c'est des pères qui n'ont pas envie de prendre
en charge leur
fonction paternelle. Et donc, ils se retrouvent déjà pères malgré eux. Et en plus, ils doivent payer une pension alimentaire.
Alors, ça peut arriver aussi que c'est une relation et les deux personnes ne se soient plus vues, finalement. Et puis, ils la prennent des mois ou des années, peut-être plus tard.
C'est... Pas des années, parce qu'il y a quand même des prescriptions à respecter. C'est vaut mieux agir assez rapidement.
D'accord.
Mais oui, j'ai déjà eu le cas d'un client qui arrive avec une assignation et qui découvre qu'il est père. Hein.
Ah oui, il n'était pas au courant du tout. Ouais.
Bah, en fait, il n'était pas au courant. Il pensait qu'elle avait avorté, en fait.
Ah, ok. Donc, c'est vrai que ce sont des situations très complexes. Mais c'est quoi le délai, justement, de
Alors, en fait, la mère, elle peut agir tout au long de la minorité de l'enfant.
D'accord.
Mais là où il faut faire attention, c'est il y a un délai de prescription de 5 ans. C'est, par exemple, quand le père a des liens quand même avec l'enfant, là, c'est 5 ans. Mais dans le cas où il n'y a pas de lien, c'est jusqu'à tout le long de la minorité.
D'accord. Ah oui. Donc
par exemple, il y a des notamment en matière de contestation de paternité,
ouais.
c'est 5 ans par exemple quand il y a une le père qui a des relations avec l'enfant malgré lui mais qui ne reconnaît pas.
Mmh. Et la filiation peut se faire aussi à l'inverse, c'est-à-dire
une contestation,
ouais.
Ouais. Alors la contestation, en fait, c'est le cas suivant, c'est donc madame a un enfant qui n'a pas été reconnu par le père biologique,
ouais.
Mais elle retrouve un compagnon qui se lie avec cet enfant-là, qui dit bon je le reconnais, mais quand il se sépare, il n'a plus envie de le reconnaître et d'avoir cette charge-là. Donc il y a une procédure en contestation de paternité qui est faite au tribunal. Là aussi, il y a une expertise. Alors des fois, je trouve ça un peu bête de passer par une expertise, parce que quand on voit les dates, on sait que c'est pas le père biologique. Mais par contre, quand il y a des reconnaissances comme ça de complaisance, le parent qui a reconnu l'enfant alors qu'il sait que c'est pas le sien, il est souvent condamné à des dommages et intérêts.
Ah oui.
L'enfant. Et la mère aussi, des fois.
D'accord.
Bah oui, parce qu'en fait,
envers l'enfant, pas envers. Ah oui, d'accord.
Oui, oui. Bah c'est un préjudice en fait par rapport à l'identité de l'enfant, en fait.
Oui, préjudice moral. Et la mère également peut effectivement. Donc, c'est des choses à savoir avant, justement, au moment où on décide de prendre en charge.
Les contestations de paternité, c'est... Oui. Faire reconnaître un enfant par un parent qui n'est pas le sien, c'est toujours compliqué. Autant faire une filiation, enfin, une adoption simple. Hein.
Ouais.
Y a moins de difficultés.
Oui, alors, la différence, justement
L'adoption simple, en fait... Alors, la différence, c'est que l'adoption simple, c'est qu'il y a déjà une filiation paternelle qui existe.
D'accord.
Et c'est, par exemple, madame qui va être en couple avec un beau père pour l'enfant, qui lie aussi des liens, qui tisse des liens avec l'enfant, et qui a envie de le reconnaître et de le faire inclure dans sa famille adoptive. Donc là, en fait, c'est une procédure qui est différente. Il faut aller faire un acte de consentement chez un notaire.
D'accord.
Une fois que l'acte de consentement est fait, donc l'avocat rédige la requête en adoption simple. Et les conséquences, c'est que l'enfant a une double filiation, une filiation légitime avec son père biologique. Et une filiation adoptive avec le beau-père. Et donc, du coup, il intègre aussi des droits dans la succession. Et puis aussi, pareil, les obligations alimentaires.
Ouais. Alors que par la filiation, finalement, eh bien, ça devient comme si c'était son enfant biologique.
Exactement.
Ouais. Donc, ce sont deux choses à garder en tête, effectivement. 03 83 36 20 20, on continue ensemble à parler droit de la famille ce matin sur France Bleu Lorraine. Jusqu'à 10h, vous venez nous retrouver au 03 83 36 20 20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions ou témoigner anonymement également. Hein, si certaines questions peuvent gêner, c'est vrai qu'on rentre dans le domaine vraiment de l'intime. Vous n'hésitez pas, donc 03 83 36 20 20.
Jusqu'à 10h, à votre service sur France Bleu Sud-Lorraine, 03 83 36 20 20.
On parle droit de la famille ce matin sur France Bleu Lorraine au 03 83 36 20. Vous posez vos questions à Maître Dominique Talarico qui est avec nous, qui peut y répondre. On a beaucoup parlé des obligations des parents sur les enfants, notamment lors de séparation. Mais il y a aussi des obligations des enfants sur les parents lorsque ceux-ci avancent dans la vie. Ouais. Notamment des obligations alimentaires.
Oui, quand ils sont placés en maison de retraite.
D'accord. C'est quoi les droits, les devoirs des enfants d'ailleurs sur leurs parents?
C'est de contribuer. Et de verser, enfin, ce qu'on appelle une obligation alimentaire, on parle pas de pension alimentaire. Donc, de verser une somme. Alors là, le cas typique, c'est la maison de retraite qui va agir au nom de l'aîné qu'elle héberge dans son établissement à l'égard de tous les obligés alimentaires. Mmh. C'est large, hein. Donc, c'est les enfants, les conjoints.
D'accord.
Donc, fils, belle-fille. Ouais. Et les petits-enfants.
Ah,
donc,
oui.
Des fois, on peut avoir des audiences avec 17, 20 personnes.
D'accord. Toute la famille est redevable pour s'occuper de la grand-mère. Bon, ce qui, enfin, c'est une sorte de solidarité à travers la
c'est
famille.
Exactement, ça, c'est sur ça. Le principe de la solidarité. Donc, en général, l'aîné qui arrive à la dans la maison de retraite, qui a pas beaucoup de moyens, la maison de retraite fait déjà une demande sociale auprès du conseil général, est souvent refusée.
D'accord.
Parce qu'en fait, on estime que, un aîné qui a de la famille peut contribuer, et c'est pas à l'État de le faire. Donc ensuite, la maison de retraite, au nom de l'aîné qu'elle héberge, introduit une procédure, donc à l'égard de tous les co-obligés alimentaires. Donc, vous êtes obligé de contribuer. Le juge, en fait, va fixer une somme en fonction de vos revenus.
D'accord.
Pareil.
Ok.
Et il y a une exception, c'est l'exception d'indignité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, le petit-fils ou petite-fille ou l'enfant qui n'a eu aucun lien avec la grand-mère, qui a été privation d'aliments, mauvais traitements, etc., peut mettre en avant ce genre de fait pour être dispensé totalement ou partiellement. Et ça fonctionne des fois.
Et ça fonctionne.
Oui.
Ça peut être le cas pour tous si, justement, il y a eu, ça arrive dans certaines familles, un déchirement, les enfants, les grands-parents ne se parlent plus,
Alors,
de nombreuses années.
Alors, ça, c'est pas un critère légal. Voilà, le fait de ne pas se parler, parce que ça, c'est effectivement, c'est toujours les arguments qui sont lancés. Voilà, je ne lui parle plus, je ne la connais pas, je ne suis jamais invitée aux fêtes, etc. C'est pas un critère légal. L'absence de contact n'est pas un critère légal. C'est vraiment la privation d'aliments, de mauvais traitements. Alors, c'est par exemple le fils qui va dire non, mais moi, ma mère, à 18 ans, elle m'a mis dehors, ou à 16 ans, elle m'a mis dehors, j'ai dû me débrouiller à travailler, gagner ma vie, etc. Donc, il peut y avoir une dispense partielle ou totale. Mais je l'ai déjà obtenu.
Mais donc, il y a des familles qui ne se parlent plus, mais les enfants ont le devoir de payer pour les parents.
Bah, c'est pour ça que des fois, c'est un peu chaud quand ils arrivent à 17-20 et que personne ne se parle.
Ah ouais, effectivement, ouais, ça peut être compliqué à gérer. Le rôle d'un avocat dans tout ça, c'est quoi ? De faire comprendre à chacun qu'il y a un devoir, il y a un droit légal et moral aussi.
Bah, c'est ce que je leur explique. Alors, moi, en général, dans ce cas de figure-là, j'interviens plus pour la maison de retraite. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir pour les obligés alimentaires, mais souvent, c'est la maison de retraite. Donc, effectivement, ils viennent me voir en me disant pourquoi on doit ça, etc. Et je leur dis, bah, c'est comme ça, c'est un critère légal. Bah, de toute façon, les frais d'hébergement pour un aîné, c'est à peu près entre 2000 et 2200 euros.
Ouais.
Souvent, ils ont à peu près 1000 euros de retraite. Mmh. Donc, c'est à peu près entre 700 et 1000 euros, suivant les cas de figure, à répartir sur 10, 15. Donc ça va, ça fait pas des grosses sommes, mais bon, le problème c'est jusqu'à ce que la personne décède, donc ça peut durer.
Oui, ça peut durer. Et pour là aussi, c'est pris en charge. On a une famille, on l'a dit, 17-18 personnes. Les situations sont différentes pour chacun. La somme qui est demandée en fonction des revenus de chacun.
Oui. Oui, et heureusement, bah oui, bien sûr. Alors en général, ils arrivent avec tout un dossier où ils mettent leur salaire, leurs charges, leurs emprunts, et puis souvent en fait, ils ont eux-mêmes aussi des enfants. En charge. Quand c'est les petits enfants qui sont dans la procédure, ils ont aussi leurs propres enfants.
Donc là, tout est mis en... Et donc, il peut arriver que certains cousins payent plus que d'autres et ça peut créer d'autres situations problématiques.
Ce qui arrive, c'est que des fois, en fait, c'est les petits-enfants qui se retrouvent à payer plus que les propres enfants de l'aîné, on va dire.
Ouais.
Bah oui, parce qu'en fait, les enfants eux-mêmes sont en retraite, donc ils ont une petite retraite. Et les petits-enfants, ils sont en activité, donc ils ont plus de revenus. Et oui, des fois, ça arrive.
Ouais, donc faut le savoir.
Mais on peut rien faire pour.
Non, c'est comme ça. C'est une obligation légale. Et ça fait partie des questions que vous pourriez poser. Alors, si vous en avez, vous n'hésitez pas.
France Bleu Sud-Lorraine, à votre service, jusqu'à 10h.
Avec vos questions en droit de la famille aujourd'hui, avec maître Dominique Talaricot, 03 83 36 20 jusqu'à 10h. Hein, on prend vos questions, vous les posez, et puis on y répond. En tout cas, on y essaye. Jean-Claude est avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Votre question pour maître ?
Alors, ma question, c'est, voilà, je suis marié depuis, remarié depuis 2019.
Ah oui.
Ma nouvelle épouse, qui avait un enfant de 3 ans quand je l'ai connu il y a 20 ans à peu près. Donc, elle avait un enfant de 3 ans et je voudrais la reconnaître, quoi.
Vous voulez reconnaître l'enfant que vous aviez finalement élevé dès ses 3 ans, même s'il n'y a eu que mariage en 2019,
voilà.
C'est ça?
Voilà, ça fait 21 ans qu'elle est avec moi, cette fille. Et donc, je voulais la reconnaître pour qu'elle puisse, en cas de mon décès...
avoir quelque chose.
Aussi, avoir quelque chose, quoi. Parce que c'est comme ma fille, quoi, en fin de compte. Hein, élevée et tout.
Oui, oui, voilà. Ouais. Quand on connaît un enfant à ses 3 ans, effectivement.
Donc, je sais qu'il existe aussi l'adoption simple et l'adoption plénière, mais je voulais savoir lequel...
Quel est le mieux maître ?
Alors, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors c'est l'adoption simple qu'il faudra utiliser pour ça, parce que l'adoption plénière, vous ne pouvez pas, dans la mesure où cet enfant a déjà une filiation légitime de son père. Elle a été reconnue par son papa ?
Non, pas du tout, non.
Elle n'a pas du tout été reconnue ? Elle n'a pas de filiation paternelle établie ?
Non.
Alors, elle a quel âge ?
24 ans.
Le mieux, en fait, ce serait une adoption simple. Donc, il faut que vous fassiez les consentements. Vous allez prendre contact d'abord avec un notaire pour les consentements. Sachant que elle, comme elle a 24 ans, si elle a un compagnon, il faudra que lui aussi, il atteste en indiquant qu'il accepte.
On n'a pas de compagnon. Elle vit chez moi. Elle fait ses études encore.
D'accord. OK. Et vous, vous n'avez pas d'autres enfants de d'autres unions?
Voilà. Moi, du premier mariage, j'ai deux enfants.
Qui sont majeurs? Qui sont majeurs?
Qui a une quarantaine d'années. Oui.
Alors, eux aussi, ils doivent consentir à l'adoption, parce qu'en fait, vous posiez la question de l'avantage, enfin des conséquences surtout, c'est que l'adoption simple, en fait, elle va créer un lien juridique avec vous. Et donc, en fait, si vous décédez, parce qu'en fait, c'est ça que vous disiez, hein, que vous voulez la protéger en cas de décès, elle sera héritière au même titre que vos deux autres enfants. Donc, eux aussi doivent consentir à l'adoption. Ça, c'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est qu'elle peut ajouter à son nom de famille votre nom, aussi.
Concernant la reconnaissance de l'enfant, est-ce qu'il peut y avoir une opposition au moment de l'héritage, quoi?
Non, parce que dès lors, en fait, dès lors où vos enfants, ils ont consenti à l'adoption simple...
Non, mais si je l'adopte pas, si je la reconnais comme mon enfant, est-ce que ça lui donne les mêmes avantages que mes enfants?
Vu l'âge qu'elle a, à 24 ans, ça c'est quelque chose qui aurait dû être fait à la limite à sa minorité. Vaudrait mieux vous l'adoptiez, parce que ça évitera des tensions justement au moment de votre succession. Parce que vos enfants, ils vont consentir, et au moins ce sera plus légal, ils vont consentir à l'adoption et ils sauront aussi les conséquences. Parce que
il n'y aura pas de zone floue, il n'y aura pas de contestation possible à ce moment-là.
Ils sauront que leur part elle sera divisée par 3 et plus par 2.
Donc la reconnaissance simple de l'enfant, c'est pas ça peut poser des problèmes.
Le problème, c'est que la reconnaissance, c'est que vos enfants vont pas le savoir, puisque vous pouvez aller la reconnaître à la mairie sans qu'ils le sachent. Et c'est là ça risque de poser problème au moment de la succession, parce qu'ils peuvent très bien mettre en cause votre défaut de consentement, par exemple, qu'elle a fait pression sur
c'est
vous.
C'est plus pour la bonne entente pour la suite de la vie, justement.
Pour préserver l'unité familiale.
Exactement. C'est plus pour cela, finalement, que ce conseil d'adoption est fait, plutôt que la reconnaissance, qui peut être une solution.
Ça peut être une solution, mais c'est pas la meilleure.
Si vous voulez, justement...
Comme vous n'avez pas trop de temps non plus, l'adoption plénière, ça correspond à quoi? Est-ce que j'ai besoin du consentement aussi des enfants?
Oui. Bah oui, quoi qu'il en soit, parce qu'en fait, c'est un nouveau membre qui entre dans la famille.
Bon, bah, c'est ce que je voulais savoir.
Voilà, Jean-Claude.
Je vous remercie pour vos réponses et puis je vous souhaite une bonne journée.
Très bonne journée à vous. Vous n'hésitez pas, vous venez nous retrouver au 03 83 36 20 20, vous aussi, pour vos questions jusqu'à 10h. Encore une petite dizaine de minutes pour y répondre au 03 83 36 20 20.
France Bleu Sud-Lorraine, jusqu'à 10h, à votre service.
Et encore pendant 5 minutes, on répond à vos questions. 03 83 36 20 20 sur les droits de la famille avec Maître Dominique Talarico. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette adoption, des droits des parents et des devoirs aussi sur les enfants. Dans l'autre sens également, on en a parlé tout à l'heure, on rappelle que les enfants ont des devoirs sur des parents qui sont notamment hébergés en EHPAD, par exemple. Il y a d'autres moments de la vie, d'autres obligations comme ça qui concernent parents-enfants sur d'autres situations peut-être.
Je réfléchis, je crois qu'on les a toutes balayées.
Ouais, on les a pas mal balayées justement ce matin. Alors on a parlé de l'adoption il y a quelques instants. Il paraît qu'il y a des périodes de l'année où il y a plus de demandes de divorce.
Alors c'est vrai, j'ai vu passer un article selon une étude américaine où il y aurait plus de divorces suivant certaines saisons, au printemps ou à la fin de l'été. C'est vrai qu'à la fin de l'été, des fois, c'est beaucoup de remises en question parce qu'il y a eu les vacances qui sont passées par là. Donc on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis c'est vrai, à la fin de l'été, des fois au mois de septembre, il y a plus de demandes de divorce. Franchement, de manière générale, je l'ai lu l'article, je ne sais pas s'il y a vraiment des saisons propices, mais parce que finalement, les divorces, il y en a tout au long de l'année. Mais le printemps, on dit souvent qu'il y en a plus parce que c'est le renouveau, le questionnement.
On reprend un peu d'énergie, finalement.
Donc, on se pose peut-être plus les bonnes questions. Et puis l'été, c'est parce que c'est la fin des vacances. Et souvent que les vacances ont été bonnes ou pas, ça peut être aussi...
Ça peut revenir en arrière également sur ce genre de choses. Des divorces du printemps qui, justement, après les vacances qui se sont bien passées, reviennent...
Non, parce qu'en général, les gens qui mettent en place une procédure de divorce, au printemps, ils ne vont pas partir ensemble en vacances l'été.
Non, j'imagine pas, en tout cas.
Non.
J'imagine pas. Mais ça peut arriver, effectivement, que des situations changent. Et tout cela, ça évolue dans le courant de la vie. Le mieux, c'est toujours se faire conseiller, justement.
Oui, de toute façon, l'avocat est obligatoire pour toutes les procédures de divorce, même le consentement mutuel.
D'accord. On a l'impression
et
justement.
Un avocat chacun, même quand on est d'accord tous les deux, parce qu'avant c'était possible d'avoir un avocat pour deux, maintenant c'est plus possible.
C'est plus possible, chacun doit avoir le sien.
Non, c'est pour préserver les intérêts de chacun, l'équilibre économique.
On a toujours l'impression qu'il y en a un qui essaie de flouer l'autre aussi, en disant, mon avocat demande ça, oui, mais le mien demande ça. Enfin, on a l'impression
d'où l'intérêt d'avoir deux avocats, justement.
Pouvoir essayer de concilier les choses. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Maître Dominique Talarico. Vous revenez quand vous voulez. Avocate en droit de la famille, qui répond à vos questions au 03 83 36 20 20. D'ailleurs, on peut vous retrouver sur une page Facebook, d'ailleurs, avec des petits conseils. des petits conseils.
Instagram.
Voilà, tout simplement. N'hésitez pas. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Les infos arrivent dans un instant.